guerre et paix. Deuxième partie, chapitre 1, scène 11. La fortune des Rostov n'était pas en équilibre, malgré les deux années passées à la campagne. Nicolas, fidèle à sa promesse, continuait à servir sans bruit dans le même régiment, ce qui n'était pas de nature à lui ouvrir une brillante carrière. Il dépensait peu, mais le genre de vie qu'on menait à Outradneuillet, et surtout la façon dont Mitenka régissait la fortune de la famille, faisait faire la boule de neige aux dettes. Le vieux comte ne voyait qu'une issue à cette triste situation. Obtenir pour lui un emploi du gouvernement. Et il se rendit à Pétersbourg avec tous les siens pour quêter une place. Et, comme il disait, pour amuser une dernière fois les jeunes filles. Peu après leur arrivée, Berg fit sa déclaration à Vera et fut accepté. À Moscou, la famille Rostov faisait tout naturellement partie de la plus haute société. Mais ici, leur cercle fut assez mêlé. Et ils furent reçus en provinciaux par ceux-là même qui, après avoir ouvertement profité à Moscou de leur hospitalité, daignaient à peine les reconnaître à Pétersbourg. Ils tenaient table ouverte, et leur souper réunissait les personnages les plus divers et les plus étranges. Quelques pauvres vieux voisins de campagne, leurs filles avec la demoiselle d'honneur Péronski à leur côté, Pierre Bezoukov et le fils d'un maître de poste du district, employé à Pétersbourg. Les intimes de la maison étaient Droubetskoï, Pierre Bezoukov, que le vieux comte avait rencontré dans la rue et qu'il avait amené chez lui, et Berg, qui y passait des journées entières à témoigner à la comtesse Vera les attentions exigées de la part d'un jeune homme à la veille de faire sa proposition. Il montrait avec orgueil sa main droite blessée à Austerlitz et tenait sans nécessité aucune son sabre de la main gauche. Sa persévérance à raconter son incident et l'importance qu'il y donnait avaient fini par faire croire à son authenticité et il avait obtenu deux récompenses. Quand vint la guerre de Finlande, il s'y distingua également. Ramassant un éclat de grenade qui venait de tuer un aide de camp aux côtés du commandant des troupes, il le remit à son chef. Ce fait, raconté par lui à satiété, fut accepté avec la même facilité que son premier exploit. Et Berg fut de nouveau récompensé. En 1809, il était donc capitaine de la garde, décoré, et il occupait à Pétersbourg une place très avantageuse, pécuniairement parlant. Quelques jaloux, il est vrai, dénigraient bien un peu ses mérites, mais on était forcé de convenir que c'était un brave militaire, exact au service, très bien noté par ses chefs, d'une moralité irréprochable, en train de parcourir une carrière brillante et jouissant d'une position assurée dans le monde. 4 ans auparavant, un soir qu'il était au théâtre à Moscou, Berg y aperçut Vera Rostov et, la désignant à un de ses camarades, allemand comme lui, il lui dit
« Voilà celle qui sera ma femme ».
Après avoir mûrement pesé toutes ses chances et comparé sa position à celle des Rostov, il se décida à faire le pas décisif. Sa proposition fut accueillie tout d'abord avec un sentiment de surprise peu flatteur pour lui. Comment le fils d'un obscur gentillâtre de Livonie osait-il aspirer à la main d'une comtesse Rostov? Mais le trait distinctif de son caractère, son naïf égoïsme, lui aplanit encore une fois toutes les difficultés. Il était si convaincu de bien faire que cette conviction se communiqua peu à peu à toute la famille, et l'on finit par trouver la combinaison parfaite. La fortune des Rostov était très dérangée, le futur ne l'ignorait certes point. Vera comptait 24 printemps, et, malgré sa beauté et sa sagesse, personne ne s'était encore présenté. Le consentement fut donc accordé.
« Voyez-vous, »
disait Berg à son camarade, qu'il appelait son ami parce qu'il était de bon ton d'avoir un ami.
J'ai tout disposé, tout arrangé, et je ne me marierai pas si la moindre chose clochait dans mes plans. Mon papa et ma maman sont à l'abri du besoin depuis que je leur ai fait obtenir une pension. Et moi, je pourrais fort bien vivre à Pétersbourg grâce aux revenus de ma place, à mon savoir-faire et à la dot de ma fiancée. Je ne l'épouse pas pour son argent. Non, ce serait malhonnête. Mais il faut que chacun, la femme comme le mari, apporte son contingent dans le ménage. À mon avoir, j'inscris mon service, qui vaut bien sans doute quelque chose. Au sien, ses relations, sa petite fortune, toute médiocre qu'elle peut être. Et avec le tout, je pourrais parfaitement marcher. Et puis, elle est belle, d'un caractère solide. Elle m'aime.
Ajouta-t-il en rougissant.
Je l'aime aussi, car elle a beaucoup de bon sens. C'est tout l'opposé de sa sœur, dont le caractère est désagréable et l'esprit insignifiant. On dirait qu'elle n'est pas de la famille. C'est une perle que ma fiancée. Vous la verrez, et j'espère que vous viendrez souvent.
Il allait dire dîner, mais après réflexion, il se reprit et dit
prendre le thé.
Et d'un coup de langue, il lança vivement un petit anneau de fumée bien réussi, emblème parfait du bonheur qu'il rêvait. Le premier moment d'indécision une fois passé, la famille prit l'air de fête, qui est de règle en pareille circonstance. Mais on y sentait une affectation, mélangée d'un certain embarras, qui provenait de la joie que l'on éprouvait de se débarrasser de Vera, et que l'on craignait de ne pas suffisamment déguiser. Le vieux comte, fort gêné par-dessus le marché, ne pouvait parvenir, par suite de ses nombreuses dettes, à fixer le chiffre de la dot. 8 jours seulement le séparaient de la noce, et il n'en avait rien dit à Berg, fiancé depuis 1 mois. 300 âmes représentaient la fortune de chacune de ses filles à leur naissance. Mais depuis lors, elles avaient été engagées et vendues. De capital, il n'y en avait point, et il ne savait comment résoudre la difficulté. Donnerait-il à sa fille la propriété de Riazan? Vendrait-il une forêt? Ou emprunterait-il de l'argent contre une lettre de change? Il y songeait encore lorsque Berg, entrant chez lui un matin, lui demanda carrément un aimable sourire sur les lèvres, de vouloir bien lui déclarer quelle serait la dot de la comtesse Vera. Le comte, troublé par cette question qu'il ne pressentait et ne redoutait que trop, lui répondit par des lieux communs.
Tu seras bien content de moi, mon cher, mais j'aime à voir que tu t'occupes de tes intérêts. C'est bien, très bien.
Et, frappant sur l'épaule de son futur gendre, il se leva pour rompre ce pénible entretien. Mais ce dernier, sans cesser de sourire, lui dit avec le plus grand calme qu'il ne savait au juste à quoi s'en tenir sur la fortune de sa fiancée, et que, s'il n'en touchait pas une partie au moment même du mariage, il se verrait contraint de se retirer.
Vous serez de mon avis, comte. Ce serait une vilaine action de me marier sans connaître les ressources dont je disposerais pour pourvoir à l'entretien de ma femme.
Le comte, emporté par un mouvement généreux et désireux d'éviter de nouvelles demandes, mit fin à la conversation en lui promettant formellement de lui signer une lettre de change de 80 000 roubles. Berg baisa son futur beau-père à l'épaule pour lui exprimer sa reconnaissance, en ajoutant qu'il lui en faudrait présentement 30 000 pour monter son ménage, ou tout au moins 20 000, et que, dans ce cas, la lettre de change ne serait que de 60 000.
« Oui, oui, c'est bien !»
dit le vieux vivement.
« Seulement, excuse-moi, mon cher, si je te donne les 20 000 en plus des 80... « Tu peux y compter, mon cher. Ce sera ainsi. N'en parlons plus. »